impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5 intitulé « Les bourreaux et victimes en mêlent leur récit »
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9 intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Bonjour amis auditeurs, je vous propose aujourd'hui une nouvelle d'Annie Proulx. Le titre en est « Une vie de travail ». L'auteur y déroule l'existence chaotique d'un de ses habitants du Midwest des États-Unis aux prises avec les difficultés économiques des dernières décennies. C'est un portrait sans indulgence, mais l'auteur s'abstient pourtant de juger. Elle se contente de rendre compte des événements qui se succèdent, en les ponctuant avec quelques-unes des informations dont les Américains se souviennent encore. Cette nouvelle est extraite d'un recueil intitulé « Les pieds dans la boue ». C'est le titre français, l'original c'est « Close Range ». Le recueil rassemble 11 nouvelles, dont l'action se situe dans le Wyoming. C'est l'état dans lequel Annie Proulx a choisi de vivre, et la plaine balayée par le blizzard, le bleu vertigineux du ciel, les serpents à sonnette et les cow-boys paumés semblent l'inspirer. Les cougars qui dévorent les veaux, le vent qui transporte du sable, assez pour rayer votre pare-brise. Les hivers tellement froids condamnent les êtres à la survie ou à la folie. Les personnages de ces nouvelles naviguent entre les extrêmes dans des situations hors du commun. C'est aussi dans ce recueil qu'on trouve la nouvelle la plus célèbre d'Annie Proulx, Brokeback Mountain, adaptée au cinéma par Ang Lee en 2005. Annie Proulx est née en 1935 dans le Connecticut. Elle a vécu dans différents lieux du Vermont où elle a étudié l'histoire, un peu à New York, avant de se fixer dans le Wyoming. Considérant qu'il faut avoir vécu avant d'écrire, elle a attendu 53 ans avant de faire paraître un premier recueil de nouvelles, si l'on excepte quelques publications dans des revues. Mariée et divorcée 3 fois, mère de 4 enfants, elle a été tour à tour serveuse, postière, journaliste, historienne, chroniqueuse médicale ou spécialiste de l'architecture. Elle est considérée aujourd'hui comme l'un des plus grands écrivains américains contemporains, et on la compare à John Steinbeck, William Faulkner ou John Dos Passos. On l'a traduite dans 25 pays. En 1992, puis en 1993, elle obtient le Pen Faulkner Award pour son roman « Carte postale », puis décroche le très précieux Pulitzer pour « Nœuds et dénouements ». Lead me home. Une vie de travail. Leland Lee est né dans la maison familiale de Cora, dans le Wyoming, le 17 novembre 1947, le dernier de 6 enfants. Dans les années 50, ses parents s'installent à Unique quand sa mère hérite d'un ranch grand comme un mouchoir de poche. Le ranch est situé à quelques milles de la ville. Ils élèvent des moutons, quelques poules et des cochons. Le père est colérique, et dès qu'ils le peuvent, les plus âgés se tirent. Leland sait chanter « That doggy in the window » du début à la fin. Son père le frappe avec un tue-mouche et lui dit de la fermer. Il n'y a pas de nouvelles à la radio, un blizzard a coupé l'électricité.
off my mind. Blue heartache.
Le visage de Leland possède une ossature accentuée qu'il tient de sa mère. Il a le cou épais et des cheveux roux coupés en franges. Même enfant, il avait les poches sous les yeux d'un alcoolique d'âge mûr, un front droit comme une barre, surmontant des yeux plus ou moins alignés. Son nez est large et épaté, sa bouche semble avoir été taillée d'un unique coup de ciseau à froid dans une chair tendre. En classe de 7e, chahutant avec des camarades, il tombe de l'escalier de secours de l'école et se fracture le bassin. Il reste complètement plâtré pendant 3 mois. Aux informations, le présentateur dit que l'Américain moyen mange 8,6 livres de margarine par an contre seulement 8,3 de beurre. Il n'oubliera jamais cette statistique. À 17 ans, Leland épouse Laurie Bovee. Il laisse tomber l'école. Laurie est enceinte et Leland en est fier. Son bassin ne lui cause pas de soucis. Elle a 1 an de moins que lui, un visage ovale, sans rien de particulier, des cheveux mi-longs. Elle est un peu forte, mais ressemble à un bonbon en twinset pastel. Leland et sa mère se querellent à cause de ce mariage, et Leland quitte le ranch. Il trouve un boulot de pompiste dans la station-service Egg. Ed Egg dit « Tire à volonté, Gridley !» et éclate de rire. La station-service est située au croisement de la Nationale 16 et d'une route de campagne. La Nationale 16 est la route d'accès principale pour les touristes qui vont à Yellowstone. Leland achète le vieux pick-up du père de Laurie pour $50 et Ed reconditionne le moteur. Aux infos, on parle du Vietnam et de Selma en Alabama.
It's been a blue, blue day. I feel like running away. I feel like running away from it all. My love has been.
Le programme routier fédéral fait passer une nouvelle route à 4 voies, parallèle à la Nationale 16, à 40 milles au sud. Du jour au lendemain, à Unique, le commerce lié au tourisme s'écroule. Un jour, 100 voitures font la halte pour acheter de l'essence et de l'huile, des hamburgers, des sodas glacés. Le lendemain, elles ne sont plus que 2 à s'arrêter, conduites par des gens du coin qui demandent comment vont les affaires. Au bout de quelques mois, un écriteau « à vendre » apparaît sur la vitrine intérieure de la station-service. Ed Egg se saoule et conduit trop vite. Il emboutit 2 bouvillons sur la route secondaire. Leland s'engage dans l'armée, demande à être affecté au parc de véhicules. Il reste basé en Allemagne pendant 6 ans, sans apprendre un seul mot de la langue. Il revient au Wyoming plus corpulent, plus maussade. Il travaille avec une équipe qui pose des barrières de neige pendant le printemps et l'été. Puis emmène Laurie et les enfants, le garçon et une nouvelle petite fille, à Casper, où il conduit des camions-citernes. Ils vivent dans un mobile home entre 2 voisins bagarreurs. Aux informations, ils entendent qu'un énorme diamant a été découvert quelque part. La 2e fille naît. Leland n'arrive visiblement pas à s'entendre avec le contrôleur de la compagnie de pétrole. Au bout d'un an, il retourne à Unique. Leland et sa mère se réconcilient. Doué pour économiser, Laurie a mis de côté un petit magot. ils créent leur propre affaire. Leland imagine que les gens aimeront faire leurs achats dans un magasin de fourniture pour ranch, qui leur épargnera de longs trajets jusqu'à la ville. Il loue la station-service à Madame Egg, qui n'est pas parvenue à la vendre après la mort de Ed. Il la remet en état. Leland refait toute la menuiserie, Lori la peinture extérieure et intérieure. En plus, Leland élève des porcs avec son père. Son père est né et a grandi dans l'Iowa. Et il s'y connaît en porc. Il devient clair que les gens prennent plaisir à faire le long trajet jusqu'en ville, où ils peuvent voir des choses différentes, et, en plus des fournitures pour leur ranch, acheter de l'épicerie fine, des vêtements, des pâtisseries. Un hiver exceptionnellement froid, alors que tout gèle depuis Dieu jusqu'à la bile, Leland et son père perdent 112 porcs. Ils liquident l'affaire. 18 mois plus tard, le magasin de fourniture fait faillite. La nouvelle télévision couleur retourne chez le vendeur. Après que la faillite a été prononcée, Leland trouve du travail dans une entreprise de travaux de voirie. Il est toujours absent, semble-t-il, mais revient assez souvent pour ce qu'il nomme une bonne grimpée. Et Lori se retrouve enceinte à nouveau. Avant la naissance du bébé, il lâche les travaux de voirie. Il ne s'entend décidément pas avec le contremaître. Personne n'y parvient, et le personnel change constamment. À la radio de son pick-up, il entend que des centaines de membres d'une secte religieuse ont avalé du cyanure mélangé à du soda Kool-Aid. Leland est engagé par la société de stockage de viande Meat Locker and Processing de Tongue River. Le vieux Brose est propriétaire de l'affaire. Leland est son unique employé. Il est particulièrement doué pour mesurer et découper les carcasses. Il aime faire des emballages impeccables, l'odeur des os humides, le froid. Il sait lancer son couperet avec précision, et les souris qui courent le long du mur ne vont pas loin si Leland est dans les parages. Après des mois de discussion avec le vieux Brose, Leland et Lori signent un bail de 10 ans pour l'affaire de stockage de viande. Leur fils aîné passe son baccalauréat, c'est le premier dans la famille à l'obtenir, et il s'engage dans l'armée. Il s'engage pour 6 ans. On raconte quelque chose aux actualités à propos de la cantine scolaire et le ketchup est classé comme un légume. Le vieux Brose part s'installer à Albuquerque. L'économie plonge, les bulletins d'information ne parlent que de récession et de chômage, les propriétaires parcimonieux de petits ranchs se remettent à abattre leur bétail, à le découper et à le congeler. Les mensualités de la société de stockage sont élevées et les tarifs de l'électricité augmentent. Leland et Lori doivent abandonner. Le vieux Brose rentre d'Albuquerque. Les relations sont tendues. « Ça n'a pas marché, » dit Leland, et c'est l'exacte vérité. Il semble que le moment soit venu d'essayer un autre endroit. La famille va s'installer à Thermopolis, où Leland trouve un job temporaire dans une affaire locale de stockage de viande pendant la saison de chasse. un chasseur de Des Moines, d'où est originaire le père de Leland, lui donne $100 de pourboire un jour où il charge des paquets d'élan congelés plus la tête dans son avion monomoteur. L'homme est ivre, l'avion s'écrase dans la chaîne de Medicine Bow au sud-ouest. Pendant ce long hiver, Leland est au chômage et reste à la maison avec le bébé. Laurie travaille à la cafétéria de l'école. Le bébé est un sacré hurleur et Leland le calme avec une cuillerée de bière. Au printemps, ils reviennent à Unique et Leland reprend la route, cette fois au volant de gros poids lourds qui font le trajet d'une côte à l'autre et l'éloignent de chez lui pendant 2 ou 3 mois d'affilée. Il parcourt le continent, va au Texas, en Alaska, à Montréal et à Corpus Christi. Il dit que tous ces endroits se ressemblent. Laurie travaille désormais à la cuisine du High-Low Café à Unique. Les propriétaires du café changent 3 fois en 2 ans. West Clinker, un vieux rancher, fait 3 repas par jour au High-Low. Il est gentil avec Laurie. Il lui lit un article dans le journal. Un trou étrange est apparu dans la couche d'ozone. Il confond ozone et oxygène.
Melted into one. When was the last time you really looked at rain dripping down the gutter, splashing on the window pane?
Une nuit, pendant que Leland se trouve quelque part sur la côte est, le bébé est pris de convulsions après une semaine de fièvre et de toux. Laurie fait un trajet effroyable sur des routes verglacées pour atteindre l'hôpital. Le bébé survit, mais il est attardé. Laurie fonde un groupe de secouristes médicaux à Unique. 3 femmes et 2 hommes s'inscrivent dans la classe des premiers secours. Ils font 100 000 en voiture pour suivre les cours. Seuls 2 d'entre eux réussissent l'examen du premier coup. Laurie fait partie des lauréats. L'autre est Bob le bégayeur, un vieux célibataire. L'un des candidats malheureux dit que Bob n'a rien d'autre à faire que d'apprendre le manuel des premiers secours, car il mène l'existence peinarde que vous assure le chèque mensuel de la Sécurité sociale. Leland laisse tomber les poids lourds et se lance à nouveau dans l'élevage des porcs avec son père. Il devient pompier bénévole et se trouve sur les lieux du terrible incendie de février, au cours duquel 2 enfants perdent la vie. Il faut 3 heures au camion des pompiers pour atteindre le ranch à travers les congères. La famille est apparentée à Laurie. À un moment, quelque chose explose à l'intérieur, raconte Leland, et un objet projeté hors de la maison atterrit sur le capot du camion. C'est une console Nintendo, même pas carbonisée. Bob le bégayeur a des cousins à Muncie, dans l'Indiana. Un des cousins travaille au centre médical de Muncie. Il s'arrange pour que le centre fasse don d'une vieille ambulance aux secouristes de Unique, alors qu'elle était destinée à une autre équipe dans le Mississippi. Le cousin de Bob, qui est venu à Unique, s'est chargé de les convaincre. Bob a peur de conduire dans les encombrements en ville. C'est donc Leland et Laurie qui vont en autobus à Muncie prendre livraison du véhicule. Ce sont leurs premières vacances. Ils emmènent leur plus jeune fils avec eux. Au retour, Laurie oublie son sac sur une chaise dans un restaurant. L'argent pour l'essence du voyage se trouve dans le sac. Il retourne au restaurant, fou d'inquiétude. Le sac a été mis de côté. Et il ne manque rien. Laurie et Leland parle de la gentillesse des gens, même quand on ne les connaît pas. Pendant leur absence, Bob le bégayeur a été élu président de l'équipe des secouristes. Un couple de Californiens vient s'installer à Unique et ouvre un magasin de taxidermie. Ils se disent « artistes » et présentent les animaux dans des postures inhabituelles. Laurie fait le ménage dans leur atelier. Les habitants du cru se moquent du coyote dans la vitrine qui lève la patte au-dessus de l'armoise où un piège est tendu. Les taxidermistes tiennent bon pendant presque 2 ans, puis partent dans l'Oregon. Le fils aîné de Leland et de Laurie téléphone de l'étranger. Il fait carrière dans l'armée. Le père de Leland meurt et il découvre que l'élevage de porcs présente un passif important et que le ranch est doublement hypothéqué. Le ranch est vendu pour payer les dettes. La mère de Leland vient habiter chez eux. Leland continue à être routier. Sa mère regarde la télévision du matin au soir. Parfois, elle reste assise dans la cuisine de Laurie, pratiquement sans rien dire, triant les petits cailloux dans les haricots secs. La plus jeune des filles fait du babysitting. Un soir, en la ramenant à la maison, son employeur tâte ses petits seins et lui demande de presser son pénis, parce que, dit-il, elle a mangé le morceau de gâteau au chocolat qu'il avait mis de côté. Elle obéit, mais se précipite chez elle en larmes et raconte tout à Laurie, qui lui conseille de garder le silence et de ne plus y retourner à l'avenir. L'homme est un ami de Leland. Ils chassent l'élan et l'antilope ensemble. Leland n'est plus chauffeur de camion. Laurie a économisé un peu d'argent. Une fois de plus, ils décident de se mettre à leur compte. Ils louent la vieille station-service où Leland avait son premier boulot et qu'ils avaient tenté de transformer en magasin de fourniture pour ranch. Aujourd'hui, c'est redevenu une station-service avec des rayonnages d'articles divers. Ils essaient des gadgets au succès garanti, des fanions publicitaires en plastique qui claquent et se déchirent au vent, des glaces gratuites avec chaque plein, des lots à gagner. Leland se rappelle les jours glorieux où une centaine de voitures s'arrêtaient à la station. Aujourd'hui, la Nationale 16 semble être la route la plus déserte du pays. Ils tiennent le coup une année, puis Leland reconnaît que ça n'a pas marché et il a raison. Il reste déprimé pendant plusieurs jours après que San Francisco a battu Denver dans le Super Bowl. The night was black, the roads were icy, snow was falling, drifts were high. I was weary from my driving and I stopped to rest for a while. I sat down at a truck stop, I was thinking about my. Leur aîné est renvoyé de l'armée et refuse de dire pourquoi, mais Leland sait qu'il s'agit de substances chimiques, de drogue. Leland est à nouveau routier malgré ses maux de dos. Le fils aîné est de retour, il travaille dans un ranch à Paris. Leland l'observe, cherchant des signes de dépendance. Les yeux de son fils sont constamment rouges et larmoyants. L'année la pire arrive. La mère de Leland meurt. Leland s'esquinte le dos et, la même semaine, Laurie apprend qu'elle a un cancer du sein et qu'elle est à nouveau enceinte. Elle a 46 ans. Son médecin lui conseille de se faire avorter. Laurie refuse. On découvre que le fils aîné est allergique aux chevaux et il renonce à travailler au ranch. Il dit à Leland qu'il veut tenter d'élever des porcs. Les prix du porc sont élevés. Pendant quelques jours, Leland s'enthousiasme. Il voit inscrit en grosses lettres « Leland Lee et fils, élevage de bétail ». mais le fils change d'avis quand un de ses camarades de l'armée passe le voir en motocyclette. Le lendemain, ils partent tous les deux pour Phoenix. Laurie fait une fausse couche le cinquième mois, et ensuite, le cancer la ronge. Leland vient tous les jours la voir à l'hôpital. Laurie meurt. Les filles, toutes deux mariées à présent, maudissent Leland. Personne ne sait comment avertir le fils aîné, et il ne vient pas à l'enterrement. Le cadet pleure, désespérément. Il décide de vivre à Billings, dans le Montana, avec la plus âgée des filles qui attend son premier enfant. Deux printemps après la mort de Laurie, une femme d'un certain âge, originaire de l'Ohio, achète le Hilo Café, le pain en orange, le rebaptise Unique Eats et engage Leland comme cuisinier. Il se débrouille bien avec la viande, sait choisir les meilleurs morceaux, les griller ou les préparer à la perfection, façon poulet frit. Il n'a jamais touché à une casserole chez lui, et tout le monde s'étonne de ce talent caché. Le fils aîné revient, et l'année suivante, ils envisagent de louer la vieille station-service et de la transformer en atelier de réparation de motos et en steakhouse. Personne n'a le temps d'écouter les nouvelles.
Precious Lord, take my hand, lead me.
Vous venez d'entendre Une vie de travail, une nouvelle d'Annie Proulx, extraite de son recueil Les pieds dans la boue, qui avait été édité en France une première fois en 2001 par les éditions Payot et Rivage, qui a été réédité par Grasset en 2009 dans la collection Les cahiers rouges.